France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les vœux aux armées du chef de l'État. Il assure que la capacité d'intervention militaire de la France sera maintenue à son meilleur niveau et que l'instauration d'un service national universel va être menée à son terme. Compte rendu de Ludovic Piétenu, Emmanuel Macron qui reçoit tout à l'heure à l'Élysée la chancelière Merkel pour évoquer son projet de réforme européen. Correspondance avec Cyril Sauvageau, analyse d'Éric Biégala. La politique du gouvernement vis-à-vis des migrants continue d'être vivement contestée. Le défenseur des droits recommande le retrait de la circulaire sur le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence, dossier suivi par Marie-Pierre Véraud. Et puis en plein mouvement de contestation nationale des surveillants de prison, deux gardiens blessés ce matin à la maison d'arrêt de Borgo en Haute-Corse, précision de Xavier Demagny. L'invité de la séquence interview, Barbara Lefèvre, pour son livre « Génération, j'ai le droit », publié chez Albin Michel. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Trump leur consacre un palmarès, Macron voulait réguler la chasse aux fake news ou fausses nouvelles et rouvertes. Qui a intérêt à les arrêter? Qui est légitime pour s'ériger en gardien de la vérité? On va en parler avec notre invité, l'éco-philosophe Frédéric Lordon, qui vient d'entrer dans ce studio, qui va s'installer tranquillement, qui interviendra peut-être déjà dans votre journal et qu'on retrouvera pour sûr à 12h55 pour parler vrai et faux, vrai du faux, tenter de faire la distinction.
Emmanuel Macron donc présentait ce matin ses vœux aux armées, ça se trouve sur la place, il a fait un discours sur la base navale de Toulon pour réaffirmer d'abord les engagements de l'État et rappeler aussi, pour commencer, les actions entreprises. Extrait.
Depuis le 14 mai dernier, nous avons parcouru beaucoup de chemin ensemble. Nous avons franchi beaucoup d'étapes. La rédaction de la revue stratégique en des temps records sous la direction d'Arnaud Danjean. L'augmentation du budget de la défense pour 2018. La relance de l'Europe de la défense, la coordination des services de renseignement, la mise en chantier de la loi de programmation militaire. Et sur le plan des opérations, la rénovation de l'opération Sentinelle, la mise en place du G5 Sahel, la victoire militaire presque totale contre Daesh et au Levant. Ces derniers mois ont été intenses. Mais je veux ici vous rassurer, pour ceux qui pourraient en douter. Nous allons continuer, et au même rythme, avec la même intensité et la même volonté.
Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Antoine.
Alors globalement, vous avez entendu l'ensemble de cette déclaration d'Emmanuel Macron pour ses vœux aux armées. Quel message le chef des armées entend-il faire passer à ses troupes?
Il veut régénérer les armées, leur donner les moyens de leur autonomie stratégique, moderniser des matériels vieillissants, pour ne pas dire pour certains hors d'âge. Pour ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et Emmanuel Macron, qui on le sait, apprécie ce costume et cette fonction de chef des armées au point qu'il gâte les militaires vraiment comme jamais. François Hollande et son ministre de la Défense d'alors, Jean-Yves Le Drian, rescapé de la débâcle socialiste, devenu aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, ont entamé déjà cette hausse des budgets depuis 2015. Mais ce que propose Emmanuel Macron pour la période 2019-2025 est sans précédent, pour reprendre les mots du chef de l'État prononcés à l'instant. C'est un effort inédit et incomparable. Et ce n'est pas qu'un slogan ou un élément de langage. Il y a 48 heures, Emmanuel Macron et son nouveau chef d'État-major des armées, le général Lecointre, ont procédé aux derniers arbitrages. Cette loi de programmation militaire pour 6 ans sera présentée en Conseil des ministres dans 2 semaines et demie, le 7 février. Derniers arbitrages donc avec son nouveau chef d'état-major, puisque rappelons-le, dès le 14 juillet, Emmanuel Macron avait fait acte d'autorité en limogeant le général Pierre de Villiers, du jamais vu sous la 5e République. Le discours qu'il vient donc de prononcer est bien celui du chef, et presque, j'oserais dire, du seul chef, et du chef qui offre 1,7 milliard d'euros chaque année de son quinquennat, en visant l'objectif de 2% du PIB en 2025, qui est, selon tous les experts qu'ils disent depuis des années, le bon niveau de dépenses. Mais attention, prévient-il, cet effort implique la plus grande responsabilité collective. En gros, je vous donne de l'argent, mais vous n'allez pas le dépenser n'importe comment.
Ludovic Piétenu, merci. Le chef de l'État va recevoir tout à l'heure, en fin d'après-midi, Angela Merkel à l'Élysée. La chancelière est toujours, tente toujours de boucler son gouvernement de grande coalition avec les sociaux-démocrates. Emmanuel Macron veut faire avancer aussi ses projets pour l'Europe à travers le couple franco-allemand Cyril Sauvageau, et il semble bien qu'à Berlin, on soit prêt à suivre au moins partiellement le mouvement.
Mais écoutez, il semble en tout cas que les choses soient en train de bouger, enfin, après des mois de paralysie et de silence de la chancelière, empêtrée dans ses ennuis de politique intérieure. Angela Merkel voit le bout du tunnel, hein, l'accord de coalition, accord provisoire qu'elle a trouvé la semaine dernière avec les sociaux-démocrates, met la réforme de l'Europe en tête des priorités et le futur gouvernement allemand promet d'y travailler avec la France. Hier déjà, les deux ministres des Finances, Bruno Le Maire et Peter Altmaier, ont annoncé qu'il ferait des propositions communes entre Pâques et le mois de juin sur la réforme de la zone euro. Plusieurs sujets concrets sont sur la table, comme l'idée d'un budget d'investissement commun, la création d'un fonds monétaire européen ou encore sur l'harmonisation fiscale. Alors, on est encore dans une phase préliminaire. Il faut rentrer maintenant dans la discussion concrète et chacun va devoir faire des concessions pour trouver un compromis. C'est le jeu. Mais l'Allemagne semble en tout cas effectivement décidée à saisir la main tendue d'Emmanuel Macron après ce discours de la Sorbonne qui a fait beaucoup parler ici, mais qui était resté jusque-là sans réponse officielle.
Et hier, Emmanuel Macron était à Londres avec la première ministre britannique Theresa May pour signer ce nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni. Le chef de l'État qui a souligné notamment l'importance de cette relation bilatérale franco-britannique qui perdurera après, au-delà du Brexit, a-t-il dit. Depuis le début de son quinquennat, d'ailleurs, le chef de l'État tente de développer cette diplomatie très personnelle, bilatérale, avec les principaux dirigeants des grandes puissances. Et il inscrit aussi son action, sa démarche le plus souvent sous les auspices d'une forme de multilatéralisme. Donc c'est à la fois bilatéral et multilatéral. Comment ça s'articule, Éric Béguelin ?
Oui, alors Antoine, le multilatéralisme, c'est-à-dire la décision d'action internationale, c'est quelque chose, il faut bien le voir, d'assez nouveau finalement. Ça date de l'après-guerre, de la création de l'ONU, de son ancêtre peut-être, l'entre-deux-guerres, la SDN. Mais il n'y a pas de souveraineté internationale. La souveraineté est bien et demeure bien l'apanage des États. Il n'y a donc pas à s'étonner qu'un chef de l'État, en l'occurrence le président français, investi de véritables pouvoirs exécutifs, conduisent lui-même la diplomatie du pays. La différence, c'est que celle-ci peut être douce, façon force tranquille ou particulièrement proactive. Emmanuel Macron monte lui-même au créneau sur la plupart des dossiers, relations avec l'Allemagne aujourd'hui et lundi, avec la Grande-Bretagne hier, avec la Chine il y a 10 jours. On n'oubliera pas le sauvetage du soldat Hariri en novembre dernier, mais d'autres présidents français se sont à l'occasion pareillement illustrés de façon très proactive sur la scène internationale. Sans remonter au général de Gaulle, une sorte d'orfèvre en la matière, on peut rappeler l'activisme d'un François Hollande au Mali en 2013, celui d'un Nicolas Sarkozy sur la Libye en 2011 ou sur la crise géorgienne en 2008 par exemple. Alors bien sûr, la France n'a plus forcément les moyens de peser seule sur certains dossiers, difficile pour elle d'intervenir seule en Libye, en Syrie, voire aujourd'hui au Sahel de manière pérenne, raison pour laquelle on joue là sur le multilatéralisme. On tente de monter un G5 Sahel financé par l'Union Européenne, les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Ce multilatéralisme-là n'est finalement qu'une façon de démultiplier les possibilités d'une politique souvent initiée par l'Élysée, mais qui n'a pas toujours les moyens de ses ambitions.
Éric Biegala, la politique du gouvernement, en tout cas vis-à-vis des migrants, continue d'être vivement contestée. Le défenseur des droits recommande ce matin le retrait de cette circulaire sur le recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Et ces critiques sont parfois relayées à l'étranger dans des organismes internationaux. Marie-Pierre Véraud.
Oui, c'est en tout cas une préoccupation très forte qui s'est notamment manifestée lors de la revue périodique du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui examinait le cas français en début de semaine. Il doit adopter son rapport dans l'après-midi. 295 recommandations ont été faites à la France. C'est assez important et en tout cas témoigne de l'envie de nombreux pays d'adresser une piqûre de rappel à Paris sur le respect des droits de l'homme. La question de l'accueil et du traitement des migrants est en effet particulièrement pointée. Une quarantaine de pays sont intervenus à ce sujet, qui pour s'inquiéter des mauvais traitements à Calais, pour demander le respect du droit d'asile ou s'inquiéter du sort réservé aux enfants mineurs non accompagnés. Et les interpellations faites à la France en la matière viennent autant d'Afrique, d'Amérique du Sud ou du Nord avec le Canada, que d'Asie et d'Europe, Allemagne et Belgique notamment. Le mauvais sort réservé aux migrants en France et le décalage entre les mots et les actes reste la critique récurrente. Déjà hier, l'organisation internationale Human Rights Watch était venue dire à Paris lors de la publication de son rapport annuel que la défense des droits de l'homme par Emmanuel Macron semblait à géométrie variable selon les intérêts économiques ou sécuritaires en jeu. Human Rights Watch qui dénonce également la circulaire Collomb sur les recensements dans les lieux d'hébergement, remettant en cause l'accueil inconditionnel, qui s'inquiète de plusieurs dispositions de la future loi asile Il fustige encore l'hypocrisie face à la situation en Libye, où l'on organise le renvoi des migrants en finançant les gardes-côtes libyens, alors que l'on prétend les accueillir. On voit d'ailleurs bien, à l'issue du sommet franco-britannique d'hier, où est la priorité en la matière, renforcer encore les équipements de sécurité à la frontière, afin d'empêcher les passages, au lieu de traiter vraiment la question migratoire. Au-delà d'ailleurs de cette question des migrants, qui focalise aussi l'attention à l'étranger, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est fait l'écho des inquiétudes sur la loi antiterroriste, sur les dispositions de l'état d'urgence transposées dans le droit commun, sur les contrôles aux faciès, la discrimination de certains groupes religieux. On le voit, ces débats sur les droits humains qui agitent la société française traversent aussi la communauté internationale.
Marie-Pierre Véraud, merci. Le socialiste Julien Drey évoquait cette semaine les rafles de migrants dans les centres d'hébergement. Ce matin, le maire des Républicains de Meaux, Jean-François Copé, dénonce certains amalgames entre la politique migratoire de l'exécutif et la Seconde Guerre mondiale. C'est une injure, selon M. Copé, injure à la mémoire des victimes de la collaboration sous le régime de Vichy. Il y a un sixième scrutin législatif qui a été annulé depuis juin dernier. Il s'agit de la première circonscription de Mayotte, celle de la députée de La République En Marche, Mme Ramlata Ali, qui était la première femme de l'histoire élue dans cette circonscription. La Catalogne, avec le dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont, qui assure ce matin pouvoir diriger la région depuis la Belgique. Son but est évidemment d'éviter d'être emprisonné en revenant en Espagne. M. Puigdemont est le seul candidat au poste de président régional après l'accord qui a été conclu entre sa formation et l'autre grand parti séparatiste, la gauche républicaine de Catalogne.
Midi 41 sur France Culture, la suite de votre journal. Antoine Mercier. L'agression survient en plein mouvement de contestation nationale des surveillants de prison. Deux gardiens ont été blessés ce matin à la prison de Borgo en Haute-Corse.
Et oui, ils ont été transférés à l'hôpital de Bastia. L'un d'eux a été touché à la gorge par un coup de couteau. Bonjour Xavier Demagny.
Bonjour Antoine.
Qu'est-ce qu'on sait d'abord, avant de revenir sur le mouvement dans les prisons, des circonstances de cette attaque ce matin?
Mais ce matin, c'était vers 9h30 au moment d'une ronde dans cette prison de Borgo. Trois détenus qui ont agressé deux surveillants. Ces agents ont été blessés à l'aide d'une arme qualifiée de piquante. On peut imaginer un objet tranchant. Les blessures sont sérieuses, surtout pour l'un des deux gardiens, mais elles ne mettent pas leur vie en danger. L'administration pénitentiaire insiste ce midi sur le fait qu'il s'agit de trois détenus de droit commun, mais l'un d'entre eux est signalé comme violent. Il est aussi suivi pour des soupçons de radicalisation. À l'heure où l'on parle, les trois détenus ont été interpellés par les gendarmes après avoir été délogés de leur cellule dans laquelle ils s'étaient retranchés. Ce midi, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dénonce une agression grave, intolérable, et elle exprime son soutien et son attention aux agents agressés.
Quel impact sur le mouvement de protestation en cours, dans le cadre duquel des négociations sont toujours en cours?
Oui, il y a des conséquences, d'autant que cette agression est assez violente pour marquer les esprits. Ça pèse dans le rapport de force et ça justifie la colère des surveillants de prison. On sait aussi que l'absence des surveillants dans les prisons paralyse la vie carcérale. Les promenades, les parloirs, les transferts et extractions vers les tribunaux, tout ça fait réagir les détenus. On l'a vu hier à Fleury-Mérogis, la prison de Fleury-Mérogis en Essonne, où le mouvement est important. Ce matin, 150 gardiens ont été délogés par les CRS. Quant aux négociations, donc, elles ont repris ce matin place Vendôme. Les syndicats et l'administration pénitentiaire attendent toujours un arbitrage clair de l'exécutif sur leur base de discussion. Vous le savez, il y a un certain nombre d'axes: recrutement, gestion des détenus radicalisés, autorité des personnels. Mais les syndicats, et notamment UFAP-UNSA, le syndicat majoritaire, doutent d'être satisfaits aujourd'hui et annoncent déjà vouloir reconduire leur mouvement lundi matin.
Xavier Demagny, merci bien. Une majorité des syndicats de PSA ont fait savoir hier qu'ils voteraient aujourd'hui le projet de 1300 ruptures conventionnelles collectives qui a été présenté par la direction du groupe automobile, assorti d'un nombre identique d'embauches pour cette année. Force ouvrière, la CFDT, la CFTC et le syndicat Maison, qui représente à eux 4 près de 60% des voix, ont estimé que le dispositif apportait des garanties similaires aux mobilités externes sécurisées des années précédentes. La CGT a pour sa part indiqué qu'elle voterait contre. Le nouveau dispositif introduit par la réforme du Code du travail permet à une entreprise d'engager donc ses plans de départ volontaires de manière simplifiée et surtout sans avoir à justifier de difficultés économiques. Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle, y voyait ce matin un moyen de plus pour les entreprises de se débarrasser, disait-il, des salariés les plus âgés, les remplacer par des salariés plus jeunes et moins chers. On salue l'invité de la dernière partie de la Grande Table, Frédéric Lordon. Bonjour.
Bonjour.
Comment vous expliquez, Frédéric Lordon, que cette réforme, cette loi travail, soit passée comme ça aussi facilement, finalement, alors qu'effectivement, on voit qu'elle modifie sensiblement le rapport de force?
Non, mais je ne peux pas répondre en deux minutes à ça. Faire le paysage de ce qui est amorphe, de ce qui est vivant, de ce qui glougloute au fond de la marmite, de ce qui ne se voit pas encore à la surface, etc., etc., ça prendrait beaucoup de temps. Donc
Vous parlez plutôt d'une situation d'anesthésie en ce moment, ou d'attente, où on suspend son jugement, on attend de voir venir ?
Très honnêtement, je ne peux pas rentrer dans cette discussion-là, dans ces conditions-là, mais nous verrons bien.
On sent que vous avez tout de même l'idée que peut-être les choses seront moins simples dans quelques temps et qu'à la longue, oui, les résultats ne seront pas forcément, oui, au rendez-vous.
Oui. Et Frédéric Lordon nous propose de le réinviter une trentaine, voilà, de minutes pour reparler de ce sentiment.
Il n'y avait pas une once de ça dans
mon propos. Voilà, on vous retrouve pour la dernière partie de la Grande Table. Merci en tout cas d'avoir malgré tout dit un mot dans cette édition. On se tourne maintenant vers l'invité de la séquence interview, Barbara Lefebvre, bonjour.
Bonjour, je vais être un petit peu plus bavarde.
Voilà, peut-être, mais peut-être que vous allez aussi éveiller la volonté de Frédéric Lordon de reparler dans ce micro. Auteur de Génération, j'ai le droit, publié chez Albin Michel. Peut-être qu'il faut que vous expliquiez plus explicitement ce que vous entendez par Génération, j'ai le droit. Ça recouvre quoi précisément comme phénomène ?
C'est une formule, hein, en réalité. C'est une formule pour essayer d'identifier ce qu'on peut caractériser aujourd'hui par l'état de nos sociétés modernes, d'un extrême égocentrisme de l'individu, c'est-à-dire le triomphe de l'individualisme, mais dans tout ce qu'il peut avoir de plus bas, au sens, je dirais presque péguiste du terme. C'est vrai qu'on est arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'individu est véritablement roi. Et la société est au service de l'individu et non plus l'individu au service de la société. C'est-à-dire qu'effectivement, le destin collectif, le destin de la société m'importe moins que finalement l'achèvement de mon destin personnel, de mes intérêts particuliers. Et évidemment, le bien commun, l'intérêt général, eh bien, s'estompe. Et voire pour certains, même pour certaines générations, dans le contexte, ma problématique, c'est quand même le contexte éducatif. Et dans le contexte d'une acculturation de masse, là, on a effectivement le triomphe du moi qui vient écraser un collectif qui pourtant reste à construire.
Quel rapport entre triomphe du moi et acculturation ?
Alors, justement, cet ultralibéralisme et ce consumérisme de masse qui nous est servi depuis une trentaine d'années, sous couvert par ailleurs dans l'éducation, dans le monde de l'éducation, de discours progressistes, les sciences de l'éducation bienveillantes, le progrès de l'enfant, une vision un peu rousseauiste comme ça, n'a finalement rien caché d'autre que cette destruction de la culture, en particulier cette destruction de la culture classique. Et le fait, par exemple, et c'est ce sur quoi j'essaie le plus d'insister dans le livre, le fait d'avoir transformé la langue française, par exemple, en langue de communication. Et finalement, on a arraché des générations entières d'une maîtrise de la langue et d'une connaissance de la langue qui leur permettait justement de s'élever vers cette culture classique qui fait de nous des Français.
Exemple de cette transformation ? Vous avez un exemple à donner ? Comment on transforme une langue ?
C'est en particulier l'enseignement du français, la façon dont on a formé les maîtres depuis plus de 30 ans à l'enseignement du français, qui produit les effets que l'on connaît. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de voir que dès 1987, on commence les premières études d'évaluation au sein même de l'institution scolaire, l'évaluation de l'effet de ces méthodes sur le niveau des élèves, et on ne cesse de voir les difficultés de lecture, les difficultés en particulier de lecture-compréhension, les difficultés d'apprentissage devenir de plus en plus importantes, voire aujourd'hui massives, avec une école extrêmement inégalitaire. Et finalement, jamais on ne remet en question ces méthodes pédagogiques qui ont conduit à ce désastre. Et aujourd'hui même, ceux qui ont produit cette école de l'inégalité au nom justement de l'égalité des chances, parce que c'est là tout le paradoxe de ce grand progressisme éducatif, finalement nous explique que c'est pas le problème des méthodes, c'est le problème d'une sorte de pathologisation des élèves. Donc on voit flamber les dyslexies, les dysgraphies, les dysorthographies, alors qu'en réalité on sait très bien, et tous les experts le montrent, le taux d'élèves dyslexiques n'a pas augmenté, il reste toujours entre 3 et 5% depuis très longtemps, mais on diagnostique des élèves en troubles des apprentissages, en grande difficulté, alors qu'en réalité c'est les méthodes d'enseignement qui posent problème, et cela, aucun ministre jusqu'ici n'a souhaité véritablement les remettre en question, parce que voilà, ils détiennent une certaine
autorité.
Donc
Jean-Michel Blanquer, jusqu'ici, voulait dire vous excluez Jean-Michel Blanquer.
Jean-Michel Blanquer vient de commencer, donc je ne sais pas s'il aura les moyens de sa politique. Je pense qu'il y a une intention, il y a une volonté, mais après, on n'en est qu'au début.
Alors dans votre livre, vous parlez de l'acculturation et vous dites aussi, finalement, ça enlève l'accès à la littérature, à la culture en général. Ça ne donne pas la clé d'entrée dans ces domaines-là. Et qu'est-ce que ça modifie pour la personne, finalement ?
Pour moi, ça modifie tout. Mais je suis professeure d'histoire-géographie, je suis aussi enseignante spécialisée, je m'occupe d'élèves handicapés, mais Je pense fondamentalement que la France est une nation littéraire. C'est-à-dire que si on prive les enfants, et en particulier les enfants des milieux populaires, d'accès à la littérature, à la grande littérature, à nos auteurs classiques, c'est une façon de les priver de leur identité. Parce que, comme disait Kafka, quand vous lisez un livre, ce qui compte, c'est qu'il vous mette un grand coup de poing sur le crâne. Sinon, ça ne sert à rien de lire. Et ben, c'est ça. La littérature, elle est faite pour entrer dans des mondes nouveaux,
mais
des mondes qu'on ne connaît pas.
Pas seulement la littérature française.
Pas seulement la littérature française, mais enfin, quand on est français et qu'on est à l'école, on entre aussi dans son identité française grâce à la littérature française ou francophone, si on veut. Mais enfin, il faut quand même passer par les grands textes. La littérature pour jeunesse, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais il y a un moment donné où il faut se coller à la vraie qualité de notre langue, et je suis navrée, mais de ce point de vue, les grands textes, les grands auteurs, Molière, La Fontaine, Flaubert, Victor Hugo, c'est ça qui porte aussi notre identité, et c'est ça qui fait qu'on se sent véritablement français. D'ailleurs, moi, souvent, j'ai entendu des grands écrivains, comme, des très grands écrivains étrangers, dire qu'ils étaient entrés dans la langue française et dans leur identité française par la littérature. Donc je pense que vraiment priver les enfants de la littérature, c'est les priver de leur identité.
Est-ce que c'est un combat idéologique que vous menez ?
Ah non, pas du tout. Alors vraiment, sincèrement, alors évidemment on veut toujours réduire ces débats éducatifs à des camps, hein, et les camps des réacs, les camps des nostalgiques. Je n'ai aucune nostalgie de l'école d'avant. La seule nostalgie que je pourrais avoir, c'est qu'effectivement, pour voir dans ma famille le milieu populaire, que l'école d'avant, effectivement, leur avait au moins permis d'apprendre à lire, écrire, compter, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça peut être éventuellement la seule nostalgie que je peux avoir. Mais non, je ne suis pas dans une nostalgie de l'école d'avant. Il n'y a pas d'idéologie. Au contraire, je pense que l'école, elle n'est pas là pour gouverner les esprits. L'école n'est pas là pour être le vecteur d'une idéologie, elle est là véritablement pour être le vecteur d'une culture commune et de ce qu'on appelait avant les humanités. Alors, si parler des humanités, dire qu'il faut absolument que dans les quartiers populaires, l'enseignement du latin soit important, massif, que la grande musique, la musique classique puisse revenir, par exemple, moi je trouve dommage qu'on n'ait pas davantage de classes musicales dans les écoles des quartiers populaires. C'est extrêmement important, la grande musique. Moi, en ZEP, j'ai conduit des projets avec une collègue de musique. On les a emmenés à l'opéra écouter Wagner. Ben, c'était absolument passionnant. Donc, je pense que ça n'est pas nostalgique de vouloir, au contraire, transmettre la culture aux élèves.
Et l'histoire, puisque vous êtes professeur d'histoire ?
L'histoire, c'est, comme la littérature d'ailleurs, un grand terrain de combat idéologique, et c'est bien dommage qu'on en soit là, de captation d'un certain nombre de sujets autour notamment le roman national, etc. Moi, je n'ai pas du tout une vision téléologique de l'histoire. L'histoire n'est pas une métaphysique, c'est un ensemble de faits qu'on doit transmettre aux élèves en essayant d'être le moins dogmatique possible. Et je crains, enfin, hélas, qu'effectivement...
Il y a toujours un récit malgré tout qui s'impose.
L'histoire est un récit, enfin, je veux dire... Écrire depuis Thucydide, depuis même Hérodote, l'histoire est un récit. Les gens qui vous expliquent que le roman national, le récit national, c'est horrible, c'est simplement des gens qui ne sont même pas des historiens. L'historien fait le récit du passé à travers son regard qui est celui du temps présent. Flaubert disait « l'histoire romaine, il faut la réécrire tous les 20 ans ». Vous voyez, le roman national, ce n'est pas quelque chose qui me fait forcément rêver.
Vous citez aussi Rabelais « le temps est père de vérité ». Est-ce que ce n'est pas la question de fond, notre rapport au temps qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le présentisme, qui rend caduque finalement le passé, ou du moins inutile, et qui n'offre pas de contour pour l'avenir ?
Ça, c'est sûr que le culte du présentisme et le culte de l'immédiateté, c'est vraiment ce qui aujourd'hui conduit justement à cette société où l'individu est complètement atomisé et où finalement le sens du collectif se perd et où l'individu se perd lui-même. Donc oui, cette immédiateté, on le voit bien nous au niveau de l'éducation nationale, l'effet que les réseaux sociaux ont aussi sur la sociabilité des élèves et sur cet individualisme, ça pose un certain nombre de questions.
Vous regrettez la disparition donc du commun, on l'aura compris. Est-ce que finalement vous ne vous sentez pas proche de ceux qui à gauche aussi défendent cette idée de commun ? On peut parler de Dardot, Laval par exemple, qui ont fait un livre là-dessus.
Oui, mais moi je suis pour qu'il y ait un débat sur justement quel commun bâtir. Après, si on décide de bâtir le commun sur au contraire justement la reconnaissance d'individualité particulière, de particularisme identitaire, là je ne vais pas forcément être d'accord. C'est-à-dire que si c'est pour enfermer chacun dans des identités formatées, notamment des certains déterminismes ethno-racial ou ethno-religieux, là je ne vais pas être d'accord pour qu'on forme le commun sur les particularismes. Je pense que justement l'identité, notamment l'identité républicaine, et au premier rang desquels l'outil majeur qui est celui de la laïcité, c'est ce qui permet justement d'essayer de se créer une identité citoyenne commune. C'est en fait une forme d'individualisme civique, et ça existe. Et il faut essayer de le faire vivre, mais en essayant d'être le moins possible dans les particularismes qui nous guettent.
Génération J'ai le droit, donc entre guillemets, Barbara Lefèvre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est publié chez Albin Michel. Le bilan de la violente tempête qui a été baptisée Frédéric s'est alourdi. 8 morts en Allemagne où le trafic ferroviaire grande ligne reprenait lentement ce matin. Au total, il y a eu 11 personnes qui ont été tuées en Europe du Nord en raison de cette tempête. Cet après-midi, un temps couvert avec des averses sur la plupart des régions, sauf près de la Méditerranée, les températures de 7 à 18 degrés. 17h, magazine de la rédaction. La PrEP est-elle la pilule miracle anti-VIH? C'est un reportage d'Antoine Marette avec Annie Brault à la réalisation. Présentation Aurélie Kiefer, édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h, Anne Fauquemberg.